One, two, get down.
Bonjour à toutes et à tous, installez-vous, c'est l'heure de votre thérapie pop.
Paid the cost to be the boss. Paid the cost to be the boss. I paid the cost to be the boss. Look at me, you know what you see.
Chers amis, bienvenue à bord pour ce nouvel épisode de Thérapie Pop, l'émission qui décrypte pour vous la musique contemporaine des années 50 à demain. Nous sommes comme chaque semaine ravis de vous retrouver pour 26 minutes de culture musicale, et pour mon plus grand plaisir, mais également pour le vôtre, c'est Gauthier qui nous prendra par la main aujourd'hui. Salut Gauthier.
Salut mon cher Théo.
L'émission de ce jour est consacrée comme une fois par mois à l'anniversaire d'un album important de l'histoire du rock, et si selon notre planning établi en septembre, on devait fêter les 20 ans de You Are the Quarry de Morrissey, ce petit coquin de Gauthier a décidé qu'on avait passé par les Deco and the Bunnymen cette année et on a donc a donc finalement souhaité fêter les 40 ans de leur quatrième album.
Bon, on n'en a pas parlé du tout pour l'instant de cette année. On en avait parlé l'année dernière.
C'est vrai ?
Eh ouais, c'était l'année dernière, c'était quasiment à la même époque.
Porcupine, c'était l'année ?
Porcupine, c'était l'année, c'était sorti en 83.
Qu'est-ce que le temps passe vite, Gauthier.
Mais oui, mon gros lapin. Cette année. Mais surtout, c'est Cohen de Bunnymen qui t'a marqué, donc tu ne l'oublies pas.
Assurément.
Assurément.
Et donc, vous l'aurez compris, on va parler de leur quatrième album, donc qui s'appelle Ocean Rain. Alors, je préfère vous prévenir, ça va pas transpirer l'objectivité du côté de Gauthier aujourd'hui. Dans cette émission, on va vous raconter la genèse de cet album, de sa pochette. On vous parlera de la conception presque nihiliste de la musique qu'a le groupe et le tout, bien entendu, saupoudré de quelques anecdotes dont Gauthier a le secret. Mais je vous propose qu'on plonge directement dans le bain en s'écoutant la première piste de l'album, Silver.
Swung from a chandelier. My planet sweet on a silver salver, bailed out my worst fears. 'Cause man has to be his own savior. Blind sailors, imprisoned jailers, God tamers, no one to blame us. The sky is blue, my hands untied. A world looks true through our clean eyes. Just look at you with burning lips. You're living proof of my fingertips. Walked on a tidal wave, laughed in the face of a brand new day. Food for survival thought, mapped out the place where I'd plan to stay. All the way, well behaved, just in case it slips away. You with burning lips.
Les amis, vous êtes bien sur Radio Présence et vous écoutez Thérapie Pop. Alors Gauthier, tu as décidé de nous parler d'Ocean Rain des Coen The Bunnymen et j'imagine que ce n'est pas pour rien. Je crois que tu souhaitais débuter l'émission par une petite citation de ton magazine favori.
Ouais, non, mais parce qu'en fait, effectivement, en préparant l'émission, donc je me suis souvenu qu'on en avait parlé déjà l'année dernière et ça sera la dernière fois parce qu'en fait, en faisant Porcupine l'année dernière et Ocean Rain, cette année, on aura fait quasiment les deux meilleurs albums de Coen The Bunnymen. Les autres sont très dispensables, donc on arrêtera. Et en fait, en reprenant l'émission de l'année dernière, je suis retombé sur cette citation de Joe Tancari du magazine Pitchfork à propos du nom de ce groupe qui reste quand même l'un des noms les plus what the fuck du monde. Et je pouvais pas m'empêcher de la reciter. Alors, à votre avis, de quel type de drogue s'agissait-il? Je demande seulement parce qu'il semble assez évident qu'Coen The Bunnymen a été un groupe baptisé pendant une période de jugement altéré. Je peux comprendre que ce soit drôle un samedi soir ivre, mais aller sérieusement jusqu'au bout et commencer à sortir des albums sous le nom Bunnymen, Echo étant leur boîte à rythme, était juste au-delà de la raison, non seulement parce que c'est un nom idiot, mais parce que c'est un nom qui engendre le scepticisme dès qu'il est prononcé. J'adore cette phrase et, ouais. c'est assez vrai.
Ceci étant dit, Gauthier, on peut pas tout à fait lui donner tort à ce Joe Tangari. Peux-tu nous rafraîchir la mémoire et nous rappeler qui composait ce groupe?
Oui, pour la genèse du groupe, je vous renvoie à l'émission qu'on avait fait sur Porcupine. Et effectivement, très rapide rappel, donc Echo and the Bunnymen, c'est un groupe anglais formé dans la célèbre ville de Liverpool qui a pondu 2-3 bons groupes, ouais. Moins que Manchester et Londres, mais quand même, qui a été formé en 78, donc en pleine période, début de la Cold Wave, etc., d'où ses sons un peu froids. Mm-hmm. Le line-up original était composé du chanteur pas piqué des hannetons Ian McCulloch, on en reparlera dans l'émission, un type étrange, du guitariste Will Sergeant et du bassiste Les Pattinson. En 1980, Pete De Freitas rejoindra le groupe en tant que batteur, parce qu'il n'y a pas à dire, un batteur, ça reste assez utile.
Oh oui, surtout avec de la Cold Wave. Et en effet, Gauthier, donc on avait parlé de Porcupine en février dernier.
Ouais, on en avait parlé. Ocean Rave, c'est donc le deuxième très très grand album. Mais pour vous donner envie de réécouter la précédente émission qu'on avait enregistrée l'année dernière, petit extrait de l'album Porcupine qui vous permettra aussi de voir où en était Echo and the Bunnymen au moment où ils vont en rentrer en studio pour enregistrer Ocean Rain. Cet extrait, c'est Back of Love.
Chopping block, chopping up my stopping thoughts. Self-doubt and selfism were the cheapest things I ever bought. When you said to love, to bring the back of love. When you said to love.
Voilà des bons sons de Cold Wave, mon bon Théo.
Ah ça, on est bien d'accord, Gauthier. Je reviens rapidement une dernière fois sur Porcupine. J'imagine qu'on l'avait dit l'année dernière, mais deux fois valent mieux qu'une. C'est un album qui a su rencontrer son public. Hein.
C'est Echo and the Bunnymen, en fait, personne ne connaît maintenant. Ou on va dire que c'est pas le groupe le plus connu.
C'est un peu tombé dans l'oubli, ouais.
C'est un peu tombé dans l'oubli, et pourtant c'est un sacré groupe. Et en plus, qui avait eu son petit succès, le single The Cutter, donc de Porcupine, était le premier single qui était monté dans les top 10 des charts anglo-saxons, en grimpant à la 8ème place. Hein, tandis que l'album donc Porcupine qui était sorti en février 83, on cherchait la date tout à l'heure Théo, ouais. A atteint lui la deuxième place du classement des albums, donc c'était pas alors c'est pas l'époque où tu te bats contre je sais pas moi Tina Turner etc les années 80, ouais. Enfin début des années 80, mais quand même c'est un beau succès.
On est d'accord, et contrairement à d'autres groupes justement le succès eux ne leur monte pas, mais alors pas du tout à la tête.
Non, et c'est ça qui est très marrant dans la démarche. Alors tu parlais de démarche nihiliste venant du groupe, on peut effectivement un peu en parler. C'est pas parce qu'ils rencontrent du succès qui vont changer leurs habitudes, et ils continuent donc à tourner dans des lieux plus ou moins atypiques. Je cite Ian McCulloch, donc le chanteur qui était interviewé en 2013. Nous étions au sommet de nos pouvoirs en tant que groupe. Tout le monde portait des chapeaux de cow-boy et jouait au stade, pendant que nous, on secouait le pavé. Il était significatif que nous jouions à des petites îles sur la côte ouest de l'Écosse, plutôt que dans des stades. Il fait référence notamment à des groupes de l'époque. Alors bon, U2 n'est pas encore arrivé, mais de groupes qui vont commencer déjà à cette époque à se starifier, à faire des gros concerts. Mmh. Eux, ils s'en foutent, ils sont number two du classement des albums, mais ils jouent dans les îles, je crois, hybrides, justement, au large de l'Écosse, enfin, vraiment dans des salles, quasi la salle des fêtes de Bondigou, quoi.
Et oh, non, mais, elle est très bien, la salle des fêtes de Bondigou.
Il y a une salle des fêtes à Bondigou ?
Bien sûr, monsieur.
Mais dis donc, ouais. C'est pas rien. L'intercommunalité, peut-être.
Non, 300 âmes, mais une salle des fêtes. Ouais. Et Gauthier, si le succès ne leur monte pas à la tête, c'est parce que ce sont des artistes, des vrais.
Oui. Là aussi, je vais citer alors ce coup-ci le guitariste de Enco and the Bunnymen qui dira: cela n'a jamais été fait, Enco and the Bunnymen, pour gagner de l'argent ou vendre des disques. Bon, c'est con quand t'es numéro 2 des charts. Ouais. Cela a toujours été fait comme une chose artistique. Nous pensions que tout le reste était de la merde, belle idée, à l'exception de quelques groupes. C'était juste notre attitude, mais cela nous a aidé à passer à travers, justement. Donc, l'idée, c'est que tout le monde n'est pas terrible. Nous, on va venir et on va montrer ce que c'est de la bonne musique.
Bien sûr.
Ouais.
Alors, c'est bien beau et même tout à fait louable, hein, Gauthier, de faire de la musique pour la création. C'est bien beau de penser que tout le reste est de la merde, je reprends ta citation, mais après le succès de Porcupine, il faut quand même bien enchaîner. Comment ils vont s'y prendre ?
Écoute, ils vont là en France, aussi étonnant que ça puisse paraître. Ouais. Ils vont enregistrer l'album Ocean Rain au studio des Dames à Paris, avec l'aide d'un ingénieur du son qui est français, Henri Losteau, et Adam Peters, et qui ont arrangé notamment les sections orchestrales avec les cordes et les passages aussi de piano. L'orchestration, on y reviendra, mais sur cet album Ocean Rain est très important. Et bien cette inspiration musicale, ils sont allés la chercher en France. Je te propose un autre petit extrait de cet album, puisque maintenant il s'agit de parler d'Ocean Rain. C'est la chanson Seven Seas.
Stab a sorry heart with your favorite finger, paint the whole world blue. Stop your tears from stinging. Hear the cavemen singing. Good news they're bringing. Seven seas, swimming them so well. Glad to see my face among them, kissing the tortoise shell. Forever kneeling, where's the sense in stealing without the grace to be it? Seven seas, swimming there so well.
Et du coup, Gauthier, qu'est-ce que ça donne cet album? Alors, dans un premier temps, d'un point de vue visuel.
Ça donne déjà une sacrée pochette. Et Enco and the Bunnymen, vous pourrez aller voir, notamment sur les 4 ou 5 premiers albums, ils ont toujours des pochettes, des visuels qui sont vraiment, vraiment chouettes. Alors, je crois qu'il y a toute une thématique sur les 4 éléments. La précédente, Porcupine, était sur la neige, là, c'est sur l'eau. Enfin, d'ailleurs, la neige n'est pas un élément à proprement parler, mais enfin. Ouais, mais dans leur idée. Ouais. Avant, c'était les arbres. Enfin bon, voilà. Comme toutes les pochettes du groupe, c'est un dénommé Brian Griffin qui est à la manœuvre. Photographe que je ne connais pas, mais il faut dire, Théo, que je n'y connais rien en photographie. Mais qui avait été quand même nommé photographe de la décennie par le Guardian en 89.
Ce qui n'est pas rien.
Donc, comme Enco and the Bunnymen, tout le monde ne le connaît pas, mais c'est un mec important, Brian Griffin. Pour moi, Brian Griffin, c'est un personnage dans les Griffins. C'est les chiens des Griffins. Ouais. Brian Griffin, mais enfin, passons. Et on y retrouve, donc, vous irez voir la pochette, le groupe sur un bateau. Aram à l'intérieur des Garnglaze Cavernes, qui sont un très joli lieu en Angleterre. Et ça fait tout ça une espèce d'ambiance bleutée, très très belle, très vaporeuse presque, un peu à l'image de cet album.
Ouais. Et en effet, je dois bien reconnaître moi aussi un certain charme à cette pochette.
Mais attends, tu vas commencer à les aimer, quoi, Benny Melton, les pochettes. Tu es en train de me dire que Seven Seas, ça te plaît, tu vois?
Oui, ça me plaît, Gauthier.
Ah, mais alors.
Ah, mais je suis aussi là pour apprendre des côtés. Hein. Je ne fais pas que te faire parler. J'apprends. Enfin, j'apprends pas tout, hein, non plus. Il y a des choses que je mets de côté. Mais je reviens sur Ocean Rain. Sur l'album lui-même, qu'est-ce que tu trouves de beau ?
Alors, c'est un son aussi qui va être très différent.
Apprends-moi encore.
C'est pas compliqué, tu connais pas l'album. Alors, Porcupine était un album, on va dire, un peu engagé et difficile parfois d'écoute pour les types qui se lancent dans Echo and the Bunnymen, parce que c'était un son très déformé, très torturé, une ambiance glaciale, bon, très cold wave en fait, tout simplement. Et lorsqu'ils vont rentrer en studio à Ocean Rain, peut-être l'ambiance de la ville lumière de Paris va jouer, ils vont laisser un peu plus de côté les sons post-punk traditionnels pour essayer de trouver quelque chose de plus riche. On parlait justement de la nécessité d'avoir ces deux arrangeurs que sont Henri Lousteau et Adam Peters à la manœuvre pour des orchestrations plus fournies. Il y aura 35 musiciens qui viendront en studio, des violonistes, etc. Ouais. Et bien évidemment, quand tu mets des violons, des violoncelles sur un son qui en principe est post-punk cold wave, ça va bien évidemment un peu t'adoucir tout ça, le rendre un peu plus agréable. Et ça fait que très souvent, en fait, Ocean Rain, dans la discographie de Echo and the Bunnymen, est l'album préféré des gens qui viennent vers le groupe pour la première fois, parce que c'est un album plus facile d'accès, alors que les aficionados préfèrent Porcupine, plus typique. À titre indicatif, la version originelle de Porcupine, on l'avait raconté, mais je raconte l'anecdote parce que j'adore, avait été refusée par le label lui-même parce qu'il considérait que c'était pas assez commercial, et donc il les avait renvoyés en studio, leur disant « Vous me réenregistrez tout ça, c'est inécoutable. »
C'était bouse. Et je crois savoir justement qu'à l'époque, Echo and the Bunnymen est influencé par un groupe que pour ma part j'aime beaucoup, Gauthier.
Ah oui.
Ce groupe, c'est Love.
Mais c'est Love, et bien évidemment, si tu veux des orchestrations douces, une ambiance agréable, pleine d'amour, et bien t'écoutes Love. Pour ceux qui connaissent pas, petit extrait de la chanson Alone Again Or de l'album Forever Change, le plus beau de Love, bien évidemment, c'est Love.
Les douces mélopées de Love, tu nous en parles ?
Et ça aide justement à adoucir. Alors, je cite le groupe, hein, nous aimions à l'époque Scott Walker et Love, justement. Ils aimaient les cordes, les trompettes et tout ce genre d'instruments. Alors on s'est dit, pourquoi pas nous-mêmes essayer dans nos nouveaux morceaux. Nous étions ouverts aux idées, mais nous essayons de les garder aussi réelles que possible. Nous avons beaucoup évité les synthétiseurs, ce qui est atypique justement pour des mecs de la cold wave.
Donc, tu veux pas avaler ces cacahuètes, Gauthier ?
Écoute, il faut que je me nourrisse pendant que je travaille. Donc s'il y avait des sons bizarres à faire, c'était soit de la guitare, soit du piano, traité un peu différemment, ou à l'envers. On en parlera, ils ont enregistré parfois un peu à l'envers. J'ai adoré faire toutes ces choses justement à l'envers. Les Beatles, on s'en rappelle, avaient aussi tendance à retourner les bandes.
Exactement. Ouais.
Voilà. Mais c'est comme ça qu'on en arrive justement à un son plus doux qu'avec Porcupine.
Et on va en reparler d'ailleurs des morceaux joués à l'envers. Et pour le groupe, il fallait contrebalancer le côté petit bonbon ensoleillé de Love, et il viendra chercher cette influence outre-Manche.
Et oui, en France, puisque de toute façon ils y sont. Voilà. Et il y a deux personnes qui vont influencer cet album, c'est Édith Piaf et Brel.
Et ouais. Et c'est avec beaucoup de modestie que l'album est présenté, Gauthier.
Oui, alors on en parlait, Maculloch, le chanteur, est un type assez particulier, et effectivement, quand il va sortir l'album, il le présentera comme le plus grand album jamais réalisé de tous les temps.
Bien sûr.
Pourquoi pas ? Écoute, le principal, c'est qu'il soit fier de son travail. Ça reste un très bon album, peut-être pas le plus grand de tous les temps non plus.
Et il disait qu'il croyait que c'est... Enfin, il l'a dit plus tard, qu'il croyait que c'était réellement le cas. Enfin, vraiment, il y pensait.
Non, mais je crois que Maculloch est un mec vraiment très étonnant.
Ouais.
Parce que moi, les quelques interviews que j'ai lues de lui, etc., c'est un type pas piqué d'un ton.
Sur l'échelle Kanye West
Différent.
Au niveau du melon
Différent, un peu bizarre. J'allais te dire plus flippant, mais en fait, c'est difficile. Mais ouais, c'est vrai. Ça peut être gradué sur une échelle de Kanye.
En tout cas, c'est tellement honteux que c'en est presque touchant. Est-ce que les critiques ont su reconnaître le meilleur album de tous les temps,
Gauthier ? Non, pas vraiment. NME, via un dénommé Bibakopf, avait critiqué notamment les paroles de McCulloch en expliquant que c'était une juxtaposition fatiguée de mots mystérieux, de bêtises et de banalités, avec une musique qui correspondait selon lui à un lavage de cordes et de vent du style mélotron. C'était nul, quoi. En gros, bon, peut-être pas la clinique la plus intelligente de tous les temps.
Du vitriol.
Oui.
Et lui, en revanche, le public s'est montré un peu plus indulgent.
Oui, ça n'empêchera pas du tout l'album de se vendre. Alors, étonnamment, moins bien que Porcupine, alors que c'est un album, encore
plus
une fois, plus facile d'accès. Ouais. Il sera quatrième dans les charts anglais à l'époque. Il y restera un certain temps, 26 semaines dans les charts. Et surtout, il passera, bien évidemment, à la postérité.
T'as une autre petite citation de notre ami Tangari.
Ouais, je le reprends. Alors, je le cite beaucoup, Tangari, dans cette émission, parce qu'en fait, vous pourrez aller voir si vous vous intéressez à Echoes de Bunnymen, le magazine Pitchfork avait fait une rétrospective justement sur toute leur discographie. Donc j'en profite pour le reciter. Le quatuor de Liverpool a créé un son absolument énorme sur son disque pour correspondre au flair de leur chanteur pour la grandeur. C'est vrai que McCulloch chante un peu comme Morrissey, c'est toujours très baroque, on va dire.
On y revient, tiens, à Morrissey.
Ah oui, bah, tu vois, je fais bien que je le place. Et tout ça porté sur le dos de ce bon bassiste et de ce bon batteur Pete DeFrittas, parce qu'on est quand même sur de la cold wave, donc il faut des sections rythmiques puissantes. Voilà, un album et deux albums, parce qu'on pourrait traiter les deux en même temps, qui sont remarquables. Très important.
Et on va se quitter avec Killing Moon, Gauthier. Avant de l'écouter, t'as quelques infos à nous livrer dessus.
Ouais, c'est un bijou absolu de Killing Moon que vous connaissez peut-être pour la version qu'avait repris Nouvelle Vague. Et je suis allé effectivement chercher 2-3 anecdotes. Alors, à titre indicatif, ce bon McCulloch avait pour cette chanson dit que c'était la plus grande chanson de tous les temps.
Décidément.
Oui.
La plus grande chanson du plus grand album.
Du plus grand album. Donc une chanson à écouter une fois dans sa vie.
Vous nous remercierez, chers auditeurs.
Alors, fun fact, il y a une légende qui tourne autour de cette chanson qui dit qu'en fait ce sont les accords de Space Oddity de David Bowie qui sont joués à l'envers. Alors je suis allé vérifier et c'est pas tout à fait vrai en fait. Space Oddity commence avec un Do mi mineur et eux commencent avec mi mineur Do, mais après tout le reste de la partition est différente. Donc
rien à voir.
Ils ont changé, ils ont interverti deux accords. Mais quand t'intervertis deux accords sur une chanson de David Bowie, t'en manques beaucoup en général.
Donc, mauvaise légende urbaine.
Ouais.
Une dernière anecdote avant de se quitter.
Oui, parce que tu en parlais, des expériences dans les techniques d'enregistrement, notamment sur Killing Moon, puisque après avoir enregistré la progression d'accords de basse, le groupe a retourné la bande, donc l'a joué à l'envers, a ajouté de la réverbération et a réenregistré les effets séparés sur une autre piste, et ça a donné ce son très particulier de la chanson Killing Moon. Donc derrière la composition absolument extraordinaire, parce que ça reste en plus une mélodie fabuleuse de Killing Moon, il y a aussi un travail de studio d'artistes qui maîtrisent leur outil.
Donc s'ils ont retourné Space Oddity qui jouait à l'envers, ça a donné Space Oddity.
Ouais, presque. Et tu verras, on n'entend pas du tout Space Oddity, ce qui prouve bien que ça, la légende
ça
était totalement urbaine.
Les amis, il est déjà l'heure de se quitter, on va le faire en s'écoutant. Donc vous l'aurez compris, Killing Moon, dont on vous parlait il y a quelques instants.
La plus grande chanson de tous les temps, du plus grand album de tous les temps.
Du plus grand groupe de son époque.
Il n'a pas dit ça, McCulloch, je crois.
Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute sur le site de Radio Présence, mais également sur toutes les plateformes de podcast disponibles. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine et on fêtera également les 40 ans d'un tube, mais certainement plus populaire, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que Ocean Rain
est nettement plus gay.
Est nettement plus gay, bien sûr, puisqu'on parlera de Wake Me Up.
Before You Go Go.
De Wham. Une très belle semaine à vous, une très belle semaine à toi, Gauthier.
Salut Théo.
À lundi. Your sky all hung with jewels.
too soon. Fate up against your will, through the thick and thin, he will wait until you give yourself to him.
Give yourself to